Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 novembre, à quelques jours du fameux mois de décembre qui clôt l'année et qui est synonyme de fête et donc de plein de jeux qui arrivent sous le sapin, dans vos consoles, etc. J'espère que vous allez avoir plein de sous. Nous, on espère en tout cas. Autour de moi, toute la Dream Team, comme d'hab, Julo, Angel, Raan, Caf, voilà pour nous vous parler des meilleurs jeux de cette fin d'année. Enfin, les meilleurs, en tout cas ceux qui étaient les plus attendu, certains ont déçu.
Et ceux à éviter.
Et ceux à éviter. Voilà, d'autres ont vraiment déçu et d'autres nous ont enchantés. Donc on avait envie de vous le dire, histoire que vous fassiez bien votre sélection. Bien évidemment, vous pouvez retrouver les tests de tous ces jeux sur le site gameblog.fr. Mais si vous êtes un peu flemmard, si vous préférez écouter nos voix et nos avis dans le métro ou ailleurs, eh ben c'est parti pour une bonne demi-heure, voire plus, de podcast. Alors, on commence, on va le faire console par console. On commence par quelle console vous avez envie de commencer? Allez, c'est bonheur, c'est vous qui allez choisir. Qui
le PC est deg.
Plein de gens qui aiment le PC. On commencera donc par le PC. Voilà.
Mais merde, c'est moi.
Et voilà, donc ça va être plutôt caf.
Ouais, voilà, exactement.
Non, mais surtout qu'il y a, franchement, il y a du lourd en plus en cette fin d'année.
Non, cette année, on a été gâtés.
On commence par la Orange Box, qui est peut-être l'espèce de combo ultime, ça coûte pas grand chose. Dedans, il y en a plein.
Il y en a plein, et le problème de l'Orange Box pour Noël, c'est que bon, il y en a peut-être plus beaucoup qui l'ont pas acheté. Enfin, c'est clair parce que c'était quand même un sacré succès.
Alors, c'est quoi l'Orange Box?
L'Orange Box, c'est Team
pas
Fortress.
Un pack non,
c'est un pack fait par Valve. Donc, dedans, il y a du Half-Life 2, épisode 2. Il y a Team Fortress 2, il y a un ovni qui s'appelle Portal, qui est fantastique. Plus, ça on le dit pas souvent, mais les outils, etc., pour faire ses propres niveaux, etc.
Et puis il y a aussi Half-Life 2 de base
normal.
Et l'épisode 1.
Voilà, tout à fait. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Half-Life 2 et l'épisode 1, donc ça fait Wet Miller de jeux. Ça fait 5 jeux au total.
Si je dis pas de bêtises, ça fait 5 jeux, ça, tous indépendamment, très bonne qualité.
Ouais, mais les épisodes, par exemple, les épisodes Half-Life 2, épisode 1, épisode 2, c'est assez
court. Ils sont plus courts.
Même Half-Life 2 de base n'est pas non plus ultra long, mais
et
ça reste un excellent.
Pour combien de dollars pour le téléachat?
Et pour 50 dollars.
Pour combien de dollars tout ça?
Bah, c'est 50 euros le prix, je crois.
Ouais, c'est 59 euros, c'est le prix d'un jeu.
Bah, en fait, ils auraient vendu juste Team Fortress à ce prix-là, je pense que pas grand monde aurait râlé. Le pack lui-même est indéniablement le meilleur
rapport qualité-prix.
C'est un truc hallucinant, d'ailleurs je ne le faisais pas. Gabe Noël qui fait des cadeaux aux gens, moi j'ai pas bien l'habitude. En tout cas, ça, si vous l'avez pas acheté, rien que pour Team Fortress 2 et Portal, ça vaut mille fois le coup.
Alors à noter
sur
que...
PC et ça sort sur 360 et sur PS3 aussi. PS3 plus tard.
Apparemment, Gabe pas... Noël justement a quelques problèmes avec la version PS3 actuellement.
Il déteste.
Mais en fait, elle est sous-traitée. Elle est sous-traitée. Ouais. C'est pas Valve qui la développe, c'est une autre boîte qui la développe pour le compte de Valve et apparemment, ça se passe pas super bien. Ils ont une galère un petit peu. Mais en tous les cas, pour ce qui est de la version 360 et de la version PC qu'on a déjà pu voir, c'est à acheter les yeux fermés, surtout si vous n'avez pas déjà joué à Half-Life 2 et à l'épisode 1.
Alors justement, on regrettera un petit peu qu'Half-Life 2 ait pas été retouché, remis un petit peu au goût du jour.
Non, il n'a pas besoin en même temps. Il n'a pas vraiment besoin.
L'épisode 2 est très bon, très actuel. Les autres sont très bons qualitativement.
Ça change. Enfin, en fait,
techniquement, ils sont un petit peu en dessous de ce qu'on connaît aujourd'hui. Quoi.
Techniquement, tu es un peu en dessous des titres qui sont sortis là sur la fin d'année.
Surtout sur PC, en fait, mais sur console, ça va. Quoi,
mais ça a l'avantage de tourner sur des configs qui ne soient pas mortels. Et ça, c'est vachement bien.
D'accord.
C'est-à-dire que l'ensemble est vraiment un bon rapport qui a été pris pour un PC moyen.
Est-ce que ça tournerait sur mon nouveau MacBook Pro flambant neuf?
Ça tournerait.
Oui, puisque tu as bootcamp avec Léopard, donc. Non,
ça tournerait super bien.
Joie.
Ça tournerait super bien.
D'accord, donc vous l'avez compris, l'Orange Box, c'est un impératif à la fois sur PC et sur Xbox 360.
Portal, c'est quand même. Portal. En fait, si on doit vraiment dire un mot de la rédac, c'est quand même Portal qui est le plus intéressant dans le lot, même s'il est vachement court.
On explique très rapidement Portal,
vas-y,
le concept.
C'est un concept qu'on n'avait jamais vu dans le genre. On est planté dans un complexe souterrain quelconque. Et la seule arme qu'on a nous permet, pour arriver d'un point A à un point B, nous permet de faire un portail. D'où le nom, Portal. Et donc tu en fais un par lequel tu rentres et un autre par lequel tu sors, en fait. Et en jouant avec ce gun qui te permet de créer à distance
des trous dans les murs,
tu vas pouvoir te déplacer dans les niveaux, en sachant que l'astuce suprême du truc, c'est que l'énergie cinétique, donc la vitesse, si tu tombes par exemple dans un trou, parce que t'en fais un en bas d'un précipice, tu vas te jeter dedans, et donc si t'en fais un autre de sortie mais à l'horizontale contre un mur horizontal, tu vas arriver en volant quasiment, tu vas sauter super loin.
Tu conserves ta vitesse.
ce qui va être super important pour justement sauter à travers des trucs qui, comme ça, de premier abord, tu dis mais jamais je peux passer. Ouais. Et c'est un régal de jeu de réflexion et d'habilité quand même. Parce que c'est
d'ailleurs,
pas toujours facile.
On avait posté une vidéo de quelqu'un qui finit le jeu en une poignée de minutes, genre, je crois.
C'est un niveau, c'est un niveau en fait. Enfin, y a, sur le et net, tu trouveras énormément de vidéos de mecs qui exploitent un petit peu le jeu ou qui sont
le moteur
super bons.
Voilà. Qui est impressionnant.
Et parce que tu as un mode, une fois que tu as fini le jeu, tu as un mode time attack, etc. Donc la durée de vie est quand même plus importante que juste la campagne de base, mais c'est enfin l'Orange Box, c'est voilà.
Donc un
inévitable.
Très bon pack avec effectivement un jeu un peu ovni mais très novateur qui nous fait plaisir ici à la rédaction de
Glenblock. Il y a du solo, il y a du puzzle, il y a du multijoueur, donc
avec Team Fortress. Très très bon pack, vous l'aurez compris. On continue avec le PC toujours, avec un jeu qui a fait polémique, mais qu'en tout cas ici on apprécie, c'est Quake Wars.
Ouais, Enemy Territory, Wars en fait, le nom complet. Ce qui est l'autre gros FPS en équipe sur le net.
Attends, je dis ce que je veux, Quake Wars, j'ai envie de l'appeler comme ça. Voilà.
Moi aussi parce que c'est plus simple, mais c'est vrai que c'était à la base, c'était une licence donc d'une boîte s'appelle Splash Damage, qui avait fait Enemy Territory, donc qui est un gros carton, un gros succès. Mm-hmm. Et là c'est la version Quake, donc
alors
Quake
qu'est-ce
Wars.
Qu'il apporte, qu'est-ce qui est bien dedans?
C'est un jeu en fait multi-équipe, donc t'as deux équipes qui s'affrontent avec des véhicules et c'est le meilleur FPS par équipe actuellement sur PC. En tout cas, pas à contrario avec Team Fortress 2 qui est très un
très
gameplay
cartoon,
très cartoon et puis très il y a pas de véhicule en fait, donc très rapide, etc., qui est vraiment différent. Là c'est plus stratégique, il faut savoir ce qui se passe et tu as des véhicules, donc tu peux organiser des débarquements, des attaques groupées, tu as des snipers, tu as différentes classes de personnages aussi. Et le titre en plus a un avantage, c'est qu'il est très beau visuellement, il est vraiment sympa,
c'est absolument magnifique.
C'est vachement dur de se concentrer avec Angel qui essaye de déboucher sa bouteille de pif sans faire de bruit et qui est super cramé.
Un
20 ans
d'âge, monsieur. Un 20 ans d'âge.
Grillé.
Et franchement, c'est Quake Wars. Actuellement, on est avec Dr. Loser, qui est le monsieur qui s'occupe de nofrak.com. Et on est vraiment deux à adorer ce jeu, à essayer de le pousser, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de
monde. La communauté
sur
est assez
serveurs.
Active là-dessus ?
Non, ils sont, pour l'instant, on est vraiment en dessous d'un Team Fortress 2, c'est assez évident. Mais quand je vois, il y a encore trop de serveurs vides. Il faut venir, il faut acheter ce jeu, il faut s'éclater avec ça. Et la prise en main, en fait, est assez difficile. Quand tu arrives, il est un peu aride, tu te fais défoncer, tu ne comprends pas bien ce qui se passe. Il faut insister, messieurs. Voilà.
Donc, vous l'aurez
c'est
compris.
C'est du jeu hardcore, quoi. En fait. Ouais. C'est du jeu hardcore PC. Il y a une courbe d'apprentissage au début, et puis après. Bon.
Voilà. Et après, c'est que du bonheur.
Vous l'avez compris, un CAF à Noël a envie de s'offrir des amis. Donc, si vous avez envie de le rejoindre, vous savez ce qu'il faut faire. C'est Quake Wars. Là, vous pourrez le retrouver probablement à Noël. Alors, on pouvait pas parler du PC sans le jeu événement de cette fin d'année. La démonstration technique absolue, c'est Crysis.
Crysis, même on dit.
Ouais, Crysis.
Tu nous fais ta crise, ta petite parano.
Non, avec Crysis, c'est. J'ai fait le test il n'y a pas longtemps sur Gameblog et je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est le titre d'action, le FPS par excellence de cette fin d'année.
Mais qui requiert.
À condition d'avoir le PC qui va bien. Maintenant, le jeu lui-même, si j'étais vache, je dirais qu'il innove pas, mais le gameplay est suffisamment quand même innovant avec cette armure qui donne des pouvoirs, etc. Pour donner envie et tu te diras, t'as plusieurs possibilités pour finir un niveau. Par
ça reste un jeu trip quand même, en fait. T'as trippé. Ça,
moi, j'ai super trippé, mais c'est vrai que pour un mec qui le prend d'un point de vue un peu blasé, en fait, il va dire bon, c'est un FPS. La construction des niveaux est un peu coconne, c'est-à-dire que t'es quand même sur une île déserte. Alors, va niquer ce camp de Nord-Coréens, puisque donc les méchants de service, ce sont les Nord-Coréens, au début.
Voilà, parce alors, après, ça évolue.
C'est vrai, ça évolue, mais bon. Bah, tu butes un camp de Nord-Coréens, c'est super. Et puis après, tu as un truc et le mec fait oui, alors maintenant tu vas continuer, tu vas aller là. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu butes un camp de Nord-Coréens.
Pourquoi quand tu dis ça, tu me sens obligé de me frapper?
Parce que j'aime bien.
Comme
un peu
marteler.
pour voilà, exactement. Voilà. Mais bon, après, c'est juste c'est un petit détail. Maintenant, le jeu lui-même est fantastiquement beau.
Alors, justement, pour tous ceux qui se posent vraiment la question, quelle configuration toi tu penses est vraiment. À partir de quoi on en profite pleinement?
Bah, il faut vraiment une carte vidéo de dernière génération et pas une chip. Hein. Donc là actuellement c'est les dernières ATI, enfin AMD maintenant, dernière carte Nvidia, et si vous avez en dessous de la 8600 GT déjà vous êtes mal, il faut vraiment ce qu'on appelle les 8800 GTX, etc.
Angel,
est-ce que je peux le faire tourner sur mon MacBook Pro?
Donc ok, vous n'auriez pas compris, Angel craqué est venu du bon côté.
Non, mais en
de
plus
la
c'est une vraie question. Est-ce que je peux le faire tourner sur MacBook?
Alors tu pourras le faire tourner, mais il sera pas aussi beau que chez moi sur mon PC de la mort. En plus, mais il va être vraiment pas mal.
Et puis il est optimisé DirectX 10 aussi avec plein d'effets.
Non, alors oui et non. Il est optimisé Vista, mais c'est un partenariat un peu marketing. Ouais. Donc il y a quelques effets où tu peux être en mode ultra high.
Des effets atmosphériques et tout magnifiques,
oui,
on voit
mais
pas.
Mais non, parce que donc le PC pour tourner en effet tout à donf DirectX 10 Vista, il n'existe pas.
Très bien.
Voilà. En tout cas, ça va ramer au début du jeu et sans vouloir vous spoiler la fin.
Les 35 images secondes.
Ça, c'est... Et en 5, ça, c'est si t'es en high. C'est en very high, je pense que c'est un slideshow. En fait.
Très bien.
C'est, ils ont été un peu gourmands sur l'histoire. Mmh. Vraiment, en termes d'optimisation sur la fin, ça y est, une baston sur un endroit, c'est la guerre, ça explose partout, etc. Et mon PC, j'ai regardé, je fais OK, il va mourir. C'est
2 gigas de RAM minimum.
Il faut quand même le dire.
Parce que mon PC, si tu veux, ça a ramé. Donc je le dis pour les gens qui connaissent, mais c'est une 8800 GTX dedans. Donc une carte vidéo avec 768 mégas de RAM. J'ai 4 gigas de RAM dans le PC, j'ai un processeur à 3 GHz Core 2 Duo, donc le dernier modèle. Et
t'as la plus grosse, quoi.
Voilà.
Ce non, podcast est fantastique. Si vous voulez savoir à quel point on est des bourgeois, bah, voilà, vous le découvrez.
Mais j'ai...
Alors qu'en fait, non, pas tant que ça.
Et dans 2 minutes, je vous donne son adresse.
Mais ce PC, franchement, il n'a pas pu faire tourner la fin correctement.
D'accord.
Donc c'est. Enfin, j'ai été obligé de virer des détails pour jouer avec une fluidité correcte, quoi. Mais c'est, il faut si vous avez un PC, faites-vous plaisir. Si vous avez un PC moderne, faites-vous plaisir. Il est vraiment, vraiment bien.
Quoi. Voilà, donc on commande la carte 3D et Crysis avec. Quoi.
Ouais. Mais d'ailleurs, il y a une nouvelle carte 3D qui va sortir chez Nvidia et chez AMD pour Noël. Là. On en reparlera plus tard parce que j'attends des informations qui sont dans les 200€ et qui déchirent en termes de performance. Donc tout n'est pas perdu si votre budget reste limité. Ouais.
Ah, d'accord. Et ça, c'est plus abordable quand même.
Bah oui, parce que la 8800 GTX, elle était juste à 500, donc ouais. Non, n'importe quoi. Donc voilà. Ça
parce
va
qu'en fait, un peu pour rejouer à Crysis, aujourd'hui, il fallait s'acheter une console next-gen. Quoi.
Mais d'ailleurs, il est en package avec les cartes hors de prix et les PC haut de gamme, puisque de toute façon, c'est la meilleure démo.
C'est le prix de la PS3 quand même.
Voilà. Ah oui, c'est le prix de la PS3 pour une carte graphique, ça fait cher le PC de temps en temps.
En tout cas, une très bonne expérience. Et puis, si vous avez un petit peu les moyens et si vous êtes un peu technicien, que vous aimez.
J'ai sous les rangs sur MSN, j'étais là genre, c'est mortel et tout.
Voilà, c'est pas le moment de mettre à jour. Le mien, il est mort, je peux pas y jouer, tu vois. Puis là, lui, il est là, il fait, c'est trop bien, c'est trop bien.
C'est vrai que c'est super bien. Bah, tu t'es vengé la semaine d'après avec Assassin's Creed.
C'est vrai.
Dont nous allons parler dans quelques instants d'ailleurs. Ok, donc Crysis, Orange Box, Quake Wars, c'est les jeux qu'on vous conseille sur PC pour cette pour
et
cette
sur console pour ceux qui.
Et sur console pour l'Orange Box.
Parce que d'ailleurs, Quake Wars est aussi prévu sur console. Mm-hmm. On ne l'a pas dit, mais c'est prévu aussi. Ouais, alors par contre, on attend de voir un petit peu au niveau de l'interface que ça va donner. Ouais. Parce que sur PC avec un clavier, on peut faire plein de trucs, mais alors sur console, ça va être un peu chelou.
Eh bah, bien écoute, on en reparlera quand il sortira. Exactement. Hein, l'occasion d'un autre podcast sur les jeux de début d'année 2008, hein, par exemple. Alors maintenant, quelle console nouvelle génération vous voulez qu'on aborde? PS3, Xbox 360, oui. Messieurs, alors tout à l'heure, Raon avait choisi. Donc là, je propose à Angel de déterminer. Le déterminisme, selon Angel, ça donne.
Alors j'hésite entre la Mondo et la PS3.
Et ben, ce sera donc la PS3, puisque c'est déjà que ça en stock en fait,
okay.
Très honnêtement. Ok, donc sur PS3, ça y est, ça commence, hein, vous l'avez vu ces dernières semaines, aux États-Unis, en Europe, au Japon, la de prix fait du bien à la console de Sony, et puis c'est couplé avec l'arrivée enfin de jeux qui commencent à devenir sérieux, ça fait plaisir, et on va commencer d'ailleurs avec Ratchet & Clank Operation Destruction. Un bon jeu, hein. Très bon jeu, très cartoon.
Classique.
Mais efficace.
Classique, mais efficace.
Julo. Voilà.
Mais sûrement sous-estimé en plus. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, il n'a pas très bien marché parce qu'il est déjà sorti.
Il est déjà sorti, et oui, ça fait partie de ces jeux que, comme la Orange Box que peut-être tous les possesseurs de PS3 ont déjà acheté. Mm-hmm. Et donc classique, peut-être un peu sous-estimé, comme tu dis, mais enfin pas tant que ça en fait, parce que la première impression quand tu commences à jouer et quand tu as joué aux autres Ratchet & Clank, c'est mm-hmm. juste la redite comme d'habitude. Et comme d'habitude, au bout de 10 minutes, 20 minutes de jeu, on commence à triper, quoi, parce que c'est plein d'ingéniosité, parce que tu as des tas de nouveaux gadgets, que la formule du gameplay qui est bon, strictement la même avec quelques petites nouveautés.
On la rappellera brièvement.
En gros, c'est un jeu d'action plateforme, plus action que plateforme, dans lequel en fait ils ont mis un arsenal de FPS, quoi, c'est-à-dire qu'en gros tu récupères des flingues de plus en plus puissants, mm-hmm. et de plus en plus originaux aussi. Mmh. C'est ça le truc, c'est que
dans un univers complètement décalé,
complètement
futuriste,
décalé,
avec des personnages
oui, et
très
puis
cartoon.
L'autre force de Ratchet & Clank, visuellement et concept, ça c'est un peu comme un film Pixar, etc. Mmh. C'est-à-dire que il y a de l'humour, il y a une bonne ambiance, les scènes cinématiques sont bien faites et rigolotes. Bon, on joue pas pour le scénario évidemment, mais il y a quand même un petit scénario qui fait bien rigoler et puis on prend du plaisir à jouer quoi.
Raon, tu voulais réagir?
Ouais, juste insister sur le fait que visuellement c'est vraiment super mignon quoi, c'est vraiment bien fait, c'est super propre.
Voilà, c'est pas turbo impressionnant parce que non les non niveaux plus. Ça reste ils restent enfin comme ouais. avant.
Il y a certains niveaux qui sont impressionnants genre ville où
voilà,
il se passe énormément de choses en fond, dans le fond il y a une profondeur.
Voilà, il y a un peu plus grand.
En termes d'animation c'est vraiment du très 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 beau boulot quoi. C'est ça bouge super.
Et en termes de direction artistique quoi tout simplement parce que les villes sont super classe. Enfin, tous les environnements. En plus, ils se renouvellent vraiment à chaque niveau. C'est vraiment un environnement complètement nouveau, etc. Et les armes, il y a des trucs super rigolos. Genre, à un moment, tu peux balancer une boule à facettes.
Ouais,
par exemple. Et là, tous les ennemis se mettent à danser. Ouais. Du coup, tu peux soit te barrer, soit les fracasser, etc. T'as plein d'armes rigolotes, mais vraiment, tu vois.
On peut manier aussi le 6-axis pour utiliser certaines armes.
Oui, alors ça, c'est un des trucs aussi. C'est le 6-axis bien utilisé, c'est-à-dire des petits mini-games à droite, à gauche. Qui sont vraiment sympas à jouer, qui durent pas très longtemps et qui voilà ça marche bien.
C'est très varié quoi, c'est ça.
Ouais, c'est vraiment ultra varié. Ouais. Ouais.
Donc un jeu plein de fraîcheur sur PS3.
Voilà, un peu classique mais très très efficace.
D'accord. Autre jeu très attendu de la PlayStation 3 pour cette fin d'année, mais là qui on va le faire clair nous a quand même clairement déçu, c'est l'air. Alors là je passe la parole à Angel Davila.
Non, il m'a pas déçu. J'ai même bien rigolé en fait.
Parce que tu l'as pas acheté.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est non mais ouais, l'air, c'est le jeu qui fait pchit. Pour citer une certaine personne.
Non mais c'est Factor 5 derrière, donc c'est un gros développeur et pourtant
un gros ratage.
Ça
ouais,
a du mal à décoller.
Non mais enfin c'est les stagiaires, je pense, de Factor 5, un truc comme ça. Enfin c'est un ratage. Alors, l'air, c'était censé être une sorte de benchmark. Hein, on nous l'a présenté il y a 2 ans, je crois, si je me souviens bien. On a vu les premières images. C'était il y a super longtemps, c'était à l'E3, et c'était censé être un peu la vitrine. Genre, regarde ce qu'on peut faire avec une PS3.
Donc, on rappelle, hein, on est à dos de dragon. C'est un gros shoot, en fait. C'est un jeu de tir, mais avec des dragons.
Ouais,
époque médiévale, très Seigneur des Anneaux.
Voilà, alors c'est une sorte de Ace Combat. C'est une sorte de Ace Combat, donc on est à dos de dragon et on tire sur dos de dragon dans un plan en 3D.
Et voilà. Des Raymanta qui est explosive.
Et ouais, mais ça, j'y viendrai plus tard, parce que c'est important. Et donc, c'était censé être un benchmark, enfin le jeu qui allait montrer à tout le monde ce dont était capable la PS3. Et finalement, ouais, ils sont tellement allés dans cette direction qu'effectivement, il y a plein d'effets, mais c'est à outrance. C'est-à-dire, il y a 1 milliard de dragons tout le temps, il y a 1 milliard d'effets, mais en contrepartie, il y a à peu près 5 images/s.
D'accord. Ça rame voilà. Violemment. Quoi.
Et aussi pour montrer les nouvelles capacités de la PS3, il fallait mettre en avant le 6-axis. Donc du coup, le dragon, tu le diriges uniquement au 6-axis. Sauf que pas de peau, ça marche pas bien. Mais comme t'as aucune comme t'as pas d'autre alternative, tu vois, tu l'as un peu dans l'os. Et tu finis par.
Par casser ta 6-axis.
Non, par contempler l'ampleur des dégâts, rigoler, mais rigoler. Parce qu'évidemment, tu n'as pas payé le jeu, comme moi. T'as pas payé le jeu, mais tu finis par rigoler comme une grosse merde. Après, il y a des incohérences de scénario. J'en citerai une qui va beaucoup te faire rire. Hein. Ouais. Il y a des Raymanta géantes qui explosent, mais façon
Turok Evolution.
C'est l'étoile noire. C'est moi quand j'ai vu.
Disparition spontanée.
Mais quand j'ai vu la Raymanta exploser, j'avais l'impression de voir Star Wars et de voir l'étoile noire.
Elle a une ogive nucléaire dans le ventre, quoi.
Ouais, mais en plus sans aucune logique, sans aucune explication, et tu rigoles. Mais non, c'est un ratage complet, quoi.
Donc, techniquement pas très évolué, sexisme, maniabilité.
Il y a rien en fait. Le scénario, bon, ok. Ouais, pourquoi pas, à la limite, quoi, si on n'a jamais regardé un film
l'ambiance,
de sa vie. Mais,
l'ambiance, peut-être très héroïque fantasy.
Ouais, l'ambiance, pareil, ouais. Si on n'a jamais regardé un film de sa vie, ni lu une BD, on peut peut-être aimer, mais
ami autiste, écoutez, l'air fait pour vous, ça vous changera pas d'air.
Non, mais...
Ouh.
Ouais, enfin, voilà, c'est le jeu qui fait pchit, c'est...
Bon, on va pas s'attarder dessus, alors.
Hein. Non, alors, pour être simple, c'est le genre de jeu qui aurait pu être réussi dans... dans 3-4 ans, une fois que le hardware de la machine sera vraiment super maîtrisé. Voilà, c'est il aurait pu être réussi parce qu'on y jouerait à 60 frames par seconde, etc.
Et que les collisions seraient bien gérées.
Et que le 6-axis, il y aurait probablement un mec qui aurait trouvé une bonne idée pour l'utiliser intelligemment, ce qui n'est pas encore le cas maintenant, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais il n'y a aucun jeu qui exploite intelligemment.
Warhawk qui utilise aussi les débrayables.
À haute dose.
Warhawk, ils ont eu la bonne idée
d'enlever. Baser son gameplay, enfin un jeu qui base son gameplay sur le 6-axis, il
n'y
en a pas un seul qui a réussi encore. C'est-à-dire on retrouve justement des petites touches. Des petites touches sympas, justement, comme disait Julo dans Ratchet & Clank, mais il n'y en a pas un seul qui l'utilise intelligemment. Ouais. Bref, l'air, c'est...
refais le jeu qui
l'air, c'est que du vent, pour reprendre mon texte. C'est le jeu qui fait
une belle déception. Une belle déception, en tout cas, l'air.
Non, c'est même un ratage.
En revanche, un jeu qui est à regarder d'un peu plus près, c'est Uncharted, Drake's Fortunes. C'est impressionnant. Raon, t'as eu l'occasion d'y jouer un peu plus.
Ouais, alors j'ai pas eu le temps de le finir à l'heure où nous disons ces lignes, mais ça reste un des gros jeux de la fin de l'année. Par contre, pour tous ceux qui s'attendent un petit peu à une espèce de Tomb Raider avec un héros mâle et transposé en next-gen, ça ressemble plus en fait à un Gears of War dans l'univers d'Indiana Jones un petit peu. Donc c'est très 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 action. Il y a quelques petits puzzles et tout ça, mais ça reste fondamentalement un jeu d'action avec un scénario derrière, des cinématiques, une espèce de grande aventure à la recherche de l'Eldorado.
C'est prenant l'aventure,
les cinématiques sont très bien faites, ouais. Les dialogues sont bien écrits.
On rappelle que c'est le premier jeu Naughty Dog, donc les créateurs de Jack and Dexter, Crash and Bandicoot.
C'est une nouvelle essence de Naughty Dog, ouais. C'est un jeu qui est dirigé par une femme qui s'appelle Amy Hennig, qui est connue notamment pour la saga Legacy of Kain et Soul River.
On comprend mieux. Pourquoi c'est Raon qui s'en occupe.
Non, mais dans mes souvenirs, est-ce que c'est pas juste le sosie de Raon, mais au féminin?
Non, pas du tout, non. elle a 80 kilos de plus que moi.
Ouais, mais sinon, alors attention, je suis désolé, mais il y avait des photos qui circulaient à la rédac il y a très longtemps, et on rigolait tous parce que c'était juste toi au féminin. Bah, est-ce que je peux plante de jeu?
Je pense que
non. Pardon. Non, ok, on réglera
si
ça.
Si on pouvait recentrer le débat, s'il vous plaît.
Pardon, c'est juste un flash que j'ai eu. Je m'excuse.
Donc.
Voilà, donc dans la peau d'un type qui s'appelle Nathan Drake, le héros est pas particulièrement charismatique, c'est juste un mec un peu comme toi et moi.
Il est sportif, mais super athlétique.
Il est quand même
Un
peu plus charismatique que ce qu'on pouvait croire.
Voilà, sur les photos, voilà. C'est-à-dire qu'il a, dès qu'on l'entend parler, qu'il a ses attitudes, etc., il devient très sympathique et c'est ça qui fait la force un petit peu du jeu, c'est que tous les personnages sont un peu sympathiques. Il se passe des choses intéressantes, le scénario est bien compté, les cinématiques sont bien faites et visuellement après il y a des gens qui en fait il y a un petit peu de camp, il y a des gens qui trouvent ça magnifiquement beau et d'autres qui trouvent que ça fait très plastique.
En tout cas il y a un beau travail
sur les animations.
Il y a même un beau travail visuellement avec des parties prises qui font que les couleurs sont pétantes et que c'est des palettes
très saturées,
voilà, des palettes de couleurs très 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 fortes. Mais ça reste un jeu PS3 qu'on est content d'avoir, et quand on joue en haute définition, il a du répondant, quoi. Après, en termes d'action et au niveau du gameplay lui-même, donc ça, c'est très Gears of War avec il va falloir apprendre à utiliser les couvertures. C'est un jeu difficile aussi. Au niveau normal, mine de rien, il y a du game over au coin du tournant assez
au coin du bois
assez régulièrement
au coin de la jungle,
et donc c'est un jeu qui reste relativement classique mais qui propose des personnages intéressants, une aventure bien racontée.
Plutôt un jeu donc efficace quand même, enfin,
voilà, c'est ça, rien de révolutionnaire, mais ouais. de l'efficace, c'est-à-dire on va dire une valeur sûre de fin d'année.
Mais la démo m'a donné sympa,
un premier vrai grand jeu de la PS3.
La démo donne envie, en tout cas. La démo, moi, j'ai bien aimé.
Donc pas forcément la Killer Apps, mais...
C'est pas forcément la révolution, c'est pas forcément un jeu très au-dessus des autres qui élève le débat ou le médium, mais ça reste un très 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 bon jeu qui serait dommage d'éviter sur PS3 en cette fin d'année.
Très bien, ok, ça c'était ce qu'on pouvait dire un petit peu avec la PlayStation 3. Alors bien évidemment, il y a des jeux qui sont en multi, sur lesquels on va revenir un petit peu après. Donc il y a Assassin's Creed, Call of Duty 4 par exemple, pour ne citer que. Mais en attendant, on va passer à la Xbox 360, qui a aussi des jeux exclusifs, dont certains vraiment très très bons. Je pense par exemple à Mass Effect. Et là, du coup, je me retourne une fois de plus vers toi, Raon. Mass Effect, le nouveau jeu des créateurs de BioWare.
De BioWare. Ouais.
Pourquoi j'ai cet accent pourri là, ce soir? Je sais pas, c'est une catastrophe. BioWare.
C'est la drogue.
C'est le pinard. Ouais.
Un grand jeu d'aventure spatiale.
Un grand jeu de. Ouais, à la base, c'était censé être un jeu de rôle, mm-hmm. donc à l'occidental. Mm-hmm. Donc avec un groupe de personnages, des points d'XP à gagner, des levels à passer. Alors Mass Effect, c'est pareil. Moi, j'ai été un petit peu dur aussi sur le test parce que j'ai adoré KOTOR, j'aime bien ce que fait BioWare. Et en fait, c'est la même chose que ce qu'ils ont toujours fait. Quoi. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes mécaniques, toujours le même type de gameplay, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de quêtes annexes en dehors de l'aventure principale. Par contre, pour tous ceux qui aiment vraiment la SF, et pas la SF un peu débile avec des trucs surréalistes ou mal branlés.
La SF sérieuse, parce que là, ça...
La SF qui s'appuie sur des choses un peu intéressantes. Ouais. L'univers de Mass Effect est vraiment un des meilleurs que j'ai vu en jeu vidéo.
Puis d'un point de vue narratif, c'est quand même un très très bon jeu, très immersif. Alors, avec un choix, une palette de réponses à énormément de dialogues.
Il y a deux grands axes qui font la force de Mass Effect. C'est d'une part les dialogues et la crédibilité des personnages qui peuplent le monde de Mass Effect, avec un système de dialogue qui permet de répondre en fait à des personnages avant qu'ils aient fini leur phrase, qui donne une fluidité dans les cadrages et dans l'enchaînement des dialogues à l'écran, qui est vraiment agréable. On a un peu l'impression de participer à un film, sauf qu'on va choisir les répliques en fait à chaque fois.
Avec des visages en plus très expressifs, les visages très travaillés, très très beaux.
Voilà, la version française est aussi très réussie, ce qui est important pour ce type de jeu où il y a beaucoup de dialogues.
Et tant mieux, parce qu'on n'a pas le choix d'ailleurs de l'anglais ou du français.
On
n'a
pas le choix, on ne peut pas mettre ça en VO. C'est dommage parce qu'il y avait quand même des gros noms, des grands acteurs américains qui faisaient les voix en VO, mais la VF est vraiment très très respectable.
Ça ferait un beau moteur pour Shenmue 3, non?
peut-être. Mais alors, effectivement, bon, pour ceux qui ne sont pas passionnés par ce type d'univers un peu space opéra avec des races aliens bien justifiées, il y a un codex dans le jeu qui t'explique que tu découvres au fur et à mesure quand tu farfouilles un petit peu partout, tu découvres des données sur l'univers de Mass Effect, ses technologies, les vaisseaux, les armes, les races extraterrestres.
Ouais, il faut aimer lire dans les jeux, quoi.
Il faut aimer lire dans les jeux et il faut aimer découvrir un univers très crédible où tout a vraiment un sens, où si telle race est asexuée, c'est pour telle ou telle raison. Et ça reste relativement mature, donc ça c'est très bien. Mais par contre, pour tous ceux qui sont pas vraiment intéressés par ce type d'univers, qui sont pas attirés par ça à la base, dans les faits, Mass Effect reste un jeu qui est assez lent, avec des phases d'action relativement réussies en vue à la troisième personne, encore une fois très inspiré de Gears of War.
Même s'il faut bien aimer les héros qui font leur jogging devant soi, parce que
voilà, les animations c'est vieille génération,
c'est pas terrible. Ouais.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher. C'est lent, les ascenseurs, c'est les plus lents de toute l'histoire du jeu vidéo.
Donc, dans le futur, les ascenseurs iront moins vite qu'aujourd'hui.
Mais en fait,
c'est une belle avancée.
Ils ont camouflé les chargements de zone dans les ascenseurs, ce qui fait que les ascenseurs sont super longtemps qu'on charge là où on va arriver. Et y a d'autres choses aussi qui sont un petit peu pénibles pour l'ambiance et l'immersion. Typiquement, pareil, tu t'imagines que le nexus de la galaxie, ça se passe dans toute une galaxie, donc la ville où toutes les races aliens vont parce que c'est une plateforme commerciale, une plateforme géopolitique, etc. Tu t'imagines que ça sera un truc avec plein de gens partout, assez grand et tout ça. Et dans les faits, quand tu es dans le jeu, c'est assez petit, les PNJ bougent pas, il ne passe pas grand chose. Donc tu navigues de quête en quête. Mais à l'arrivée, c'est assez riche de contenu si on s'ennuie à faire le...
C'est un jeu très atmosphérique, ne serait-ce que par ses musiques qui sont absolument fabuleuses.
Les musiques, ouais, un petit peu Vangelis, très années 80, mais qui collent bien l'ambiance. Ouais. Ça reste surtout une aventure agréable à faire. Le scénario n'est pas fondamentalement révolutionnaire, mais il est très 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 bien narré et les personnages sont intéressants. Et il y a quand même certaines scènes où le joueur va être obligé de faire des choix qui peuvent être vraiment dramatiques par rapport à... Moi, je peux rien spoiler évidemment, mais par rapport à ce qu'on voit habituellement les jeux, il y a quand même certains moments où il y a des choix qu'on n'a pas l'habitude de voir et de pouvoir faire.
Julo, tu voulais...
Non, je voulais juste parler des scènes de sexe lesbien. T'en as vu alors finalement?
Ouais, moi ça m'intéresse beaucoup.
Je suis sûr que t'as tout tenté dans les choix des dialogues pour les avoir.
Ce que je trouve génial dans Mass Effect, c'est que c'est pas seulement... Alors si effectivement, donc on fait pour resituer un peu, on peut faire un héros femme ou homme au début, on peut choisir son visage.
Pourquoi t'as plus de mal à dire homme que femme? Je ne comprends pas.
Je sais pas. Bref. Si on fait un héros femme, la scène de sexe lesbien en l'occurrence, c'est avec une race extraterrestre. C'est ça qui est super intéressant surtout. C'est que la race extraterrestre en question dans Mass Effect est une race asexuée, mais dont tous les représentants sont visuellement, extérieurement, ont l'air d'être des femmes. Et qui peuvent se reproduire donc avec n'importe quelle espèce. Tout est expliqué, hein, c'est un peu bizarre comme ça, mais tout est expliqué dans le jeu.
Donc, ok.
Voilà, mais effectivement, la scène. Enfin, c'est ça qui est bien aussi dans Mass Effect, c'est que c'est un jeu pour adultes, quand même. Il y a des répliques qui sont bien senties, il y a des scènes. Bon, la scène de sexe lesbien, c'est pas très graphique, hein, c'est pas non plus du X. Mais c'est agréable de voir qu'on peut jouer et trouver des jeux de cette ampleur-là.
Mature.
Voilà.
Alors justement, là c'était Mass Effect, un jeu vraiment qu'on vous recommande, en tout cas pour ceux qui aiment les aventures très narratives, en tout cas un jeu qui est très maîtrisé dans son ensemble. Pour ceux qui aiment les ambiances un peu plus, on va dire, cartoon, festif, coloré, et bah, la Xbox 360 propose aussi une autre exclusivité, il s'agit de Naruto Rise of Ninja, et là on sait que vous êtes très nombreux à être fans de cette série sur Gameblog.fr. Alors justement, qu'est-ce que vaut ce jeu, développé par Ubisoft d'ailleurs?
Bah oui, hein, c'est toi qui fais les enchaînements, vieux. Pour tous les fans, bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu reprend le tout début de la série animée. Mm-hmm. Donc, jusque pour ceux qui connaissent.
Jusqu'au combat contre Gaara, je crois, c'est ça ?
Enfin, c'est ça. Mm-hmm. Jusqu'au combat contre Gaara, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire un petit peu après l'examen des Chunin. Donc, ça va être. Ça représente, je sais plus, genre 60 épisodes de la série animée. Pour les gros fans, ils vont donc rien découvrir d'hallucinant, mais par contre, il y a quand même un très bon boulot qui est fait sur la modélisation du village de Konoha, dont est originaire le personnage de Naruto. Il y a
c'est le truc le plus trippant du jeu. Finalement.
C'est ça qui est vraiment trippant.
C'est la transcription de l'univers dans un jeu complètement ouvert où tu peux aller n'importe où dans le village, etc.
Parce qu'en fait, en gros, ça ressemble un petit peu à un GTA-like mélangé donc du ce qu'on appelle du free roaming où tu te balades vraiment dans un espace vraiment gigantesque, mélangé avec du jeu de baston. Parce que en fait, à chaque fois que tu rencontres soit des ninjas adverses, que tu suis l'histoire et tout ça, il y a des combats.
Ça se finit en duel
entre les personnages en duel, voilà, comme un jeu de baston, comme un Street Fighter, quoi. Par contre, ce qui est dommage, c'est que sorti de Konoha, il se passe pas grand chose et que les quêtes qu'on te propose en fait entre les passages du scénario, c'est toujours la même chose.
Aller livrer des soupes,
c'est livrer des ramen, c'est
surtout que c'est super pas crédible. Naruto ne livre pas de ramen, il les bouffe,
ouais il les bouffe. Bon. Ça reste un jeu qui peut être intéressant vraiment pour les gros fans de Naruto parce que tu peux te balader dans Konoha, parce que c'est relativement fidèle à la série originale. Néanmoins, ça pisse pas très 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 loin, quoi, en fait.
Et puis les scènes de baston, même s'il y a des idées sympas, elles sont quand même vachement moins bien branlées que
un jeu de baston. Voilà. Ça reste bien foutu, mais on peut facilement trouver des exploits, quoi, de gagner toujours en faisant un petit peu le même coup ou des trucs comme ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des options pour jouer en ligne qui sont pas mal, c'est-à-dire qu'on peut choisir son personnage. Si dans l'aventure solo on ne joue que Naruto, on peut incarner beaucoup des personnages de base de la série en ligne et faire des duels en ligne, mais bon, malgré tout, c'est pas un très très grand jeu. Voilà.
On le conseille quand même ou pas pour les fans,
pour les
en tout cas, fans de la série.
Pour les fans, oui. Même s'ils y trouveront rien de nouveau, ça reste quand même une façon agréable de redécouvrir l'univers de Naruto sans forcément se taper un jeu de baston, parce que la plupart des adaptations, c'était juste des jeux de baston, quoi.
Ouais, pour les fans, je dis c'est bien, parce qu'en plus, il n'y en a pas beaucoup, donc on conseille juste à la moitié de la planète, je pense.
Ok, très bien. Il y a un jeu sur lequel on avait envie de revenir très rapidement. Il est sorti il y a déjà quelques temps, mais c'est une évidence, si vous ne l'avez pas encore sur Xbox 360, c'est clairement un immanquable, c'est BioShock. BioShock,
ouais. Et sur PC aussi, donc.
Sur PC, bien sûr. Donc un jeu de tir à la première personne, mais très immersif. On peut resituer un petit peu Julo.
Allez, Julo, c'est ton tour.
Donc, tout commence par un crash d'avion. Non, on va pas refaire tout le truc. En gros, c'est un FPS avec une ambiance. Enfin, pour moi, c'est ce qui m'a plus marqué dans ce jeu, c'est l'ambiance extraordinaire, quoi. Donc, avec cette ville sous-marine, tendance art déco.
Rapture.
Et donc, c'est Rapture. Et voilà, enfin tous ces personnages qu'il y a dedans et tout, enfin c'est vraiment une ambiance hyper.
Les gens sont fous à l'intérieur.
Voilà. C'est un peu dérangeant, ouais. Mais en même temps hyper hypnotisant et tout. Enfin, moi c'est ce qui m'a fait le plus triper dans ce jeu.
Visuellement, c'est très travaillé. Voilà.
C'est très beau. Ouais, c'est
ambiance sonore magnifique.
Voilà. Et à côté de ça, t'as un gameplay vachement ouvert qui te permet de faire tout un tas de trucs un peu à la Deus Ex à l'époque.
Ouais. Pas autant.
Pas autant.
C'est un héritier plus de System Shock 2 que de Deus Ex.
Non mais franchement, ça reste un titre qui est... Moi, le truc qui m'a le plus scotché dans le jeu, c'est toutes les cassettes audio. Ouais. Avec les gens qui te racontent en fait, ou des espèces de box sur cassette audio qu'ils ont eu l'idée de laisser un peu partout et que j'écoutais en continuant d'avancer dans les couloirs et tout. Et des fois, je voyais un ennemi, je faisais non, attends, j'ai pas fini d'écouter ma cassette, je vais aller te buter plus tard. Et d'ailleurs, faut que je le refasse en butant toutes les petites filles.
Oui, alors voilà, justement, ça c'est un point fort du jeu, c'est cette espèce de choix
qui influe pas tant que ça en fait sur le titre, hein, faut le savoir.
Oui, puis c'est un choix blanc-noir. Hein.
Voilà, ouais, c'est très manichéen.
C'est très manichéen. Et en plus, tu as.
On peut expliquer un petit peu.
Ouais, alors en fait, tu as des fillettes qui se baladent avec les Big Daddy dans Rapture et qui sont chargées de récupérer une substance. Voilà, des grosses scaphandries qui sont leurs protecteurs. Super relou à buter au départ d'ailleurs. Et quand elles voient un cadavre, etc., elles sont chargées de récolter en fait une substance qui est hyper importante dans le scénario du jeu qui s'appelle donc la dent. Et après, toi, tu veux récupérer cette substance-là. Donc, ça passe par deux choix. C'est soit les sauver et t'en récupères pas sur le coup, soit les flinguer et les récupérer ce qu'elles ont sur elles, en fait. Et effectivement, donc, dans le scénario, ce qui se passe, c'est que quand tu les butes pas, t'as leur boss, entre guillemets, qui sont là, qui est leur créatirisme et qui regrette, etc., qui te fait des cadeaux et qui va t'en laisser à différents points dans le jeu.
On révèle pas tout.
Ouais, tu spoil un peu là.
Mais c'est très lent, puis effectivement, ça pose des choix. Voilà.
Mais le jeu par
mais c'est la vraie scénario, liberté du jeu, c'est la façon dont on le joue, en fait. Mmh. C'est là qu'il a vraiment sa valeur et qu'il se distingue de la majeure partie des FPS ou des autres jeux d'action. C'est que le personnage évolue. On peut choisir de modifier son personnage et de lui donner des capacités différentes.
Avec des capacités justement très intéressantes.
Ouais,
de
télékinésie, pyrokinésie, lévitation, machin. Ouais.
Et comme il y a un super moteur, etc., tu peux utiliser après, physique, selon les pouvoirs que tu as, pour venir à bout d'un Big Daddy différemment, parce qu'il y a une flaque d'eau et que tu peux balancer de l'électricité. Parce que,
ouais, c'est un FPS intelligent. Quoi. Voilà.
C'est ça, où tu peux planifier des scènes d'action en te disant, bon, là, je sais qu'il y en a un qui circule, parce que les Big Daddy sont pas agressifs à la base. Mmh. Ils ne le deviennent que si on les attaque ou qu'on s'en prend au petit heures. Et donc on peut planifier, installer des pièges.
Très honnêtement, moi j'ai trouvé ça, alors c'est pas du tout le même univers, c'est pas du tout la même ambiance, mais ça reste tous les deux FPS, beaucoup plus prenant, nouveau, intéressant, immersif qu'un Halo 3 par exemple, qui est très réussi, mais qui est tellement classique. Classique.
Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir.
Alors que BioShock, vraiment, bah, c'est beaucoup plus viscéral comme ressenti. On est pris par l'aventure du début jusqu'à la fin.
Il y a une histoire intéressante, il y a un univers intéressant, et il y a un gameplay qui laisse la liberté au joueur de choisir un petit peu comment est-ce qu'il va affronter toutes les situations qu'on lui propose. Même si le jeu reste relativement linéaire, même très linéaire, c'est ça qui est agréable. Quoi. C'est que, il faut s'y accrocher au début, c'est pas comme ça, mais à partir du moment où on tue son premier Big Daddy, ça devient vraiment ouvert. Quoi.
Justement, là, je l'évoquais très rapidement, Halo 3, alors Halo 3, c'est clairement un incontournable de la Xbox 360, mais est-ce qu'on n'en a pas fait un petit peu trop aussi, globalement ? Est-ce que ça reste... Effectivement, un jeu très bien fini, très propre, mais... Bon...
J'ai envie de dire que le solo vaut ce qu'il vaut, mais Halo 3 reste.
Il vaut ce qu'il vaut, ça veut un peu tout dire quand même. C'est pas très emballé.
Je pense que le produit, la valeur ajoutée du jeu, ça va être le multi en fait, et toutes les fonctions sociales, entre guillemets, donc l'enregistrement des parties, le fait de pouvoir mettre les vidéos, sauvegarder ses replays, etc.
Changer les niveaux.
C'est un
aussi.
Truc très nouveau et que personne propose. Donc non, je trouve que ça, de ce côté-là, c'est intéressant.
Honnêtement, tout ce que vient d'énumérer CAF au niveau du multi et des possibilités sociales qu'apporte Halo 3, c'est juste du jamais vu. Donc,
non, c'est vrai, même sur PC.
Pour tous ceux qui jouent en multi, vous verriez la tête de Raon quand il dit ce genre de truc, vous avez envie de le croire.
C'est super sérieux.
Ah ouais,
et t'as pas intérêt à le contredire.
Ou de le baffer.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai que si vous voulez acheter Halo 3 juste pour la campagne solo, ça...
C'est décevant quand même.
Ça dépend, parce que bon, c'est du Halo, voilà. Et en fait, ils ont livré ce qu'on attendait qu'on...
Non, mais justement, c'est peut-être un peu ça le souci, non, c'est qu'avec Halo, les gens en attendent peut-être aussi.
Moi, j'ai
beaucoup
pas du tout
trop,
retrouvé le feeling du 1 où j'étais.
C'est normal. Et le 1, c'était la première
étonné.
Fois.
Bah ouais, mais.
C'est-à-dire qu'il y a zéro prise de risque sur la campagne de Halo. Ils ont fait du Halo de base, ils n'ont pas renouvelé. Ouais, le scénario n'est pas extraordinaire.
Les graphismes sont pas somptueux.
Oh, c'est joli, c'est joli.
Ouais, c'est bien fait. C'est pas. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je trouve la réalisation technique de BioShock, même si elle est beaucoup plus restreinte, puisqu'on est dans des couloirs, etc., ça permet effectivement d'avoir plus de débauches esthétiques.
Ouais, mais t'as des scènes épiques dans Halo 3 que t'as pas dans un BioShock, quoi.
Moi, perso, j'ai pas été emballé par Halo 3. Je le dis très clairement.
C'est bon, mais en tous les cas, ce qui est sûr,
pour
c'est qu'il y a conseillé
solo,
pour le multi,
c'est très décevant.
Plus que solo, ça, c'est sûr.
Mais par contre, en multi, ça reste effectivement une valeur sûre. Mm-hmm. Maintenant, il y a des alternatives.
Voilà. Justement, puisqu'on parlait de multi, bah, il ne va pas s'agir de multijoueurs, mais plutôt de jeux qui sont portés sur différentes consoles, aussi bien d'ailleurs sur PC, puisqu'on va parler maintenant de Call of Duty 4. Call of Duty 4, on reste dans l'univers guerrier FPS.
C'est l'autre
alternative. Mais là, quand même, ouais. C'est la grosse baffe. Hein, c'est...
Alors là encore, c'est sérieux, une campagne ouais. solo qui, par contre, pour le coup, est. Moi, je l'ai trouvé. J'ai pris beaucoup plus de, de.
Super bien mis en scène.
Voilà,
tu t'en prends juste plein la gueule.
Ah ouais, et ça dépend jamais. Stop, hein. Ça dépend jamais. Par contre, c'est super court.
Ouais.
Donc, mais c'est pas forcément grave. Moi, on préfère plutôt 6 heures de jeu où tu t'en mets pas un seul instant que 12 heures où tu tapes des longueurs. Donc, la campagne solo est très très bien. Vraiment vraiment agréable avec une alternance de niveaux un peu à la Black Hawk Down, donc où tu joues le soldat de l'armée de terre où ça pète dans tous les sens, t'es en plein milieu du chaos et tu sais pas comment tu vas t'en sortir
avec une bonne install enceinte et compagnie. Ça doit être fantastique quoi.
Donc alternance de niveaux de ce type là et de niveaux où tu joues un SAS, donc beaucoup plus en infiltration, opération un peu avec ton équipe à infiltrer des bâtiments et tout. Le scénario lui-même c'est un petit peu Tom Clancy-esque mais de on va dire plutôt bon niveau, quoi. Mm-hmm. C'est pas non plus énorme.
Puis il y a plein de phases de gameplay assez variées, enfin, ça se renouvelle assez fréquemment.
Pas tant que ça, mais sur les cycles, c'est vrai que y a par exemple un niveau où t'es dans un avion en apportant un soutien aérien à l'équipe des SAS qui progresse au sol, donc avec une caméra subjective un peu comme on pouvait voir à la télé pendant la guerre en Irak, tu vois.
Il y a des passages qui sont un peu choquants.
Ce qui est plutôt choquant, voilà, ouais. C'est ce que j'allais dire.
C'est très crûment réaliste.
Ça refait parce que justement on se souvient de ces images des appuis aériens qui appuyaient pas tant que ça et qui avaient tendance à s'acharner sur un pauvre mec qui courait. Justement, ça rappelle un peu ça.
C'est exactement ça.
Voilà.
C'est exactement ça.
Dans des pays qui ont des armes de destruction massive.
Donc
ou pas.
Ce n'est pas forcément si tripant que ça. Mais enfin bon, après.
En tant que jeu, c'est tripant. Après, les questions politiques qui sont derrière, ça c'est certain qu'il y en a, mais je crois pas que ce
soit. Et puis c'est étonnant, par exemple, qu'un tel jeu soit interdit, soit déconseillé aux moins de 16.
Oui, ça par contre, c'est juste.
D'autres sont plus 18, hein, comme un Assassin's Creed sur lequel on va revenir dans quelques instants.
C'est l'éternel débat des jeux de guerre, quoi.
Ouais.
Et donc, juste, donc, campagne solo très tripante quand même, mais très courte. En revanche, multi très riche.
Multi exceptionnel. À l'opposé de Halo, où Halo c'est de la baston qui dure assez longtemps. Quand tu tombes sur quelqu'un, tu vides des chargeurs, tu balances des grenades avant d'obtenir ton frag. Dans Call of Duty, c'est 2 balles et on n'en parle plus, on passe au suivant. Donc c'est extrêmement nerveux, avec tout un système de progression extrêmement bien pensé où on va débloquer des nouvelles armes, la possibilité de se créer des classes de personnages auxquels on va affecter des armes particulières. Par exemple, tu vas te faire ta classe de sniper, ta classe de démolisseur et tout ça. Tout est très très bien fait et il y a 15 cartes dans le jeu, 15 cartes multijoueurs. Sont toutes vraiment très très réussies.
Et là, j'aurais une question quand même à te poser, c'est est-ce que c'est du jamais vu ? Comme pour Halo 3.
Non.
Non. Ah, donc Halo 3 peut-être plus novateur à ce niveau-là, mais très réussi.
Novateur sur les features multijoueurs.
Mais c'est deux styles tellement différents de toute façon que.
Très bien. En tout cas, si on aime le réalisme dans Call of Duty 4, vous serez servi très clairement. Plus incroyable, on va dire, en termes d'univers, il est moins facile de repartir à l'époque des croisades. Mais en tout cas, c'est ce que vous propose Assassin's Creed, le dernier gros jeu en date, en tout cas chez Ubi, qui cartonne en ce moment, à juste titre ou pas ? Tiens donc,
encore une fois,
ça
dépend de quel joueur, quel type de joueur on est.
Alors, on peut resituer très rapidement, c'est donc de l'aventure, action.
Ouais.
On incarne
Altaïr, un assassin donc de la guilde des assassins de l'époque des croisades, c'est 3e croisade je crois, qui va être donc chargé d'un certain nombre d'assassinats pour le compte de la guilde et qui vont se répartir sur 3 grandes villes de l'époque qui sont Jérusalem, Damas et j'ai oublié la dernière. C'est quoi la
problème, c'est aidez-moi. Je suis pas encore, je suis à Jérusalem moi donc. Il y a le test sur gameblog.fr pour pouvoir s'y appuyer. Mais alors justement au niveau du feeling, parce que je sais que là-dessus on a Acre, voilà c'est ça. On a un point de vue pour l'instant un petit peu différent. Toi vraiment c'est une expérience en tout cas qui t'a vraiment fait triper.
Alors au début ouais. C'est-à-dire que quand j'ai mis le jeu au départ, j'ai juste pas décollé pendant je sais pas combien d'heures.
Ouais, c'est ça. C'est un choc dès le départ. Enfin, les premières minutes de jeu, bon, tu te balades dans cette ville, puis quand tu vas assez rapidement à Damas, la deuxième ville, là, t'arrives là-dedans, mais c'est juste hallucinant, quoi. Enfin, moi, ça m'a vraiment mis la mâchoire par terre, quoi. C'est-à-dire que c'est gigantesque, tu peux grimper partout. Tu t'amuses à aller voir à droite à gauche. Enfin, le premier choc pour moi,
c'est
ça a été
next-gen,
voilà,
en fait, par l'échelle du jeu, quoi.
Voilà, ouais, l'échelle du jeu, c'est vraiment le point next-gen, quoi.
C'est vraiment gigantesque, il y a énormément de choses à faire. Et ce qui est fort surtout, c'est la liberté qu'on a. On peut sauter de parapin en parapet, de toit.
Oui, parce que en parpaing, de toit en toit, on chope une échelle,
on grimpe sur les murs. Enfin, on est très, très ultra
fluide et c'est vraiment trippant. Quoi.
C'est trippant. Mais alors, justement, à force d'être aussi libre et finalement de ne pas avoir grand chose à faire, puisque finalement, on a quoi ? On a 9 assassinats dont la mécanique se reproduit généralement de manière assez similaire. Est-ce qu'on n'est pas dans un jeu qui finalement offre énormément de liberté et un vrai trip pour ceux qui veulent explorer, mais il n'y a pas grand chose à faire au final quand même?
Donc il y a les 9 assassinats à faire, c'est vrai, mais il est extrêmement répétitif quand on veut juste progresser dans l'histoire. Après, pour ceux qui veulent triper et tout découvrir, il y a de quoi faire. C'est un monde vraiment magnifique à découvrir parce qu'il y a aussi les à côté. Il n'y a pas que les trois villes. Il y a ce qui se passe à l'extérieur, même s'il ne passe pas grand chose. Il y a
pas grand chose,
quand même.
Ouais.
Mais tu sais, ça me fait penser là tout de suite à Shadow of the Colossus. Il y avait plein de gens qui disaient justement, parce que c'est vrai, entre les différents colosses,
il n'y avait rien.
Ça m'a fait triper, mais comme un malade, quoi.
Et la différence.
Ça faisait partie vraiment du jeu pour moi et de l'expérience que j'en ai retirer, quoi. Tout ce que j'ai aimé dans le jeu, c'était
ce qui sera vrai effectivement pour Assassin's Creed, mais la différence qui est entre Assassin's Creed et Shadow of the Colossus, c'est que Shadow of the Colossus, à chaque colosse, tu découvres un truc nouveau.
Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas vraiment la même répétitivité parce que là, d'un assassinat à l'autre, tu répètes
c'est
à chaque fois.
C'est le même schéma, quoi.
Phases différentes.
Il faut surprendre un dialogue entre différentes personnes.
Et là, la phase de
jeu,
en l'occurrence, c'est juste de s'asseoir sur un banc. C'est pas effectivement.
Mais par contre, c'est vrai que c'est super immersif visuellement. Si vous avez la chance d'avoir une télé HD, c'est juste prodigieux.
Et puis c'est un univers tellement nouveau.
Voilà, c'est un jeu dans lequel tu te fais ton trip. C'est-à-dire que si tu veux vraiment te glisser dans la peau du personnage, marcher tout le temps, ne jamais te faire repérer et tout, tu vas y passer des heures et prendre ton pied si c'est ce que tu apprécies. Par contre, si tu ne fais pas partie de ce type de joueurs qui se font leur trip malgré les défauts, ça risque d'être décevant.
Mm-hmm. On n'est pas énormément. Enfin, on est très cantonné à un schéma assez classique. Ok, bon, enfin, ça reste en tout cas un grand jeu. On passe sur la dernière console next-gen, la Nintendo Wii. 3 jeux qu'on a sélectionnés. Metroid Prime 3 Corruption, on en a déjà parlé dans un podcast. On va aller très vite dessus. Un grand jeu. Hein,
le premier FPS vraiment réussi sur Wii. L'univers de Metroid qu'on connaît, c'est-à-dire des Metroid Prime en tout cas, enfin l'univers de Metroid, mais la maniabilité de Metroid Prime adaptée à la Wiimote,
voilà, c'est ça, avec
ce qui ajoute plein de petits trucs immersifs, que ce soit vraiment dans les gadgets, la façon dont on ouvre les portes, les interrupteurs, etc., que dans l'expérience, quoi, tout simplement. C'est un très bon Metroid Prime, comme les
très immersif, énormément de choses à découvrir sur les à côté justement de la saga. Voilà. Faut aimer lire, hein, aussi, c'est ce qu'on disait un petit peu sur Mass Effect.
Ouais, là, toujours dans les Metroid Prime avec le scan, etc. Mais bon,
efficace.
Ouais, super efficace.
Et quelque part, ça n'a pas grand-chose à voir, mais enfin plus efficace qu'un Halo 3, moi je trouve. C'est la même. Moi je trouve c'est toute la différence. Metroid Prime 3, c'est la même formule que les autres Metroid Prime. Sauf que la simple maniabilité Wiimote ajoute quelque chose, que l'ambiance est quand même légèrement améliorée, qu'il y a un vrai rythme que moi j'ai eu un peu de mal à retrouver dans Halo 3, à regret, parce que j'aurais aimé vraiment.
Et à l'inverse d'Halo 3, il n'y a pas un seul mode multi dans Metroid.
Voilà, c'est ce qui en fait aussi un petit peu la différence. Mais en tout cas, si vous n'avez
pas. Concentration maximale sur le.
Metroid Prime 3 Corruption, excellentissime jeu. Autre jeu d'exception, juste fantastique, un incontournable tout simplement pour tous ceux qui aiment les jeux vidéo, c'est Super Mario Galaxy.
Là, c'est pareil.
Il a juste super assuré la dernière création de Miyamoto. C'est juste de l'inventivité pure. Hein. une planète, une idée, ça n'arrête pas.
Voilà, c'est renouvellement complet à chaque fois de la jouabilité, des idées.
C'est frais, c'est mignon.
Stop.
C'est pas tout. Ah. On en a effectivement parlé dans un dernier podcast, mais
en tout cas,
le
c'est un jeu.
Je arrête maintenant parce
c'est
que c'est
un jeu
mille ans.
Qui va marquer quoi. Voilà, ouais, c'est, vraiment. Voilà, c'est un jeu. C'est un jeu qu'on ressortira dans des futures
discussions. Est-ce que sa plus grande prouesse ce serait pas justement de permettre de satisfaire les hardcore gamers qui vont y jouer en continu pendant longtemps, comme ceux qui vont y venir et jouer 20 minutes par là.
Pour moi, le coquet que je ne m'attendais pas du tout, c'est de me faire un peu oublier Mario 64, hein, perso. Ouais, et franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Quoi. Mm-hmm. Et c'était
ça souligne de plus le fait que Sunshine, effectivement, était un cran en dessous. Et là, c'est vraiment un tel level, c'est impressionnant. Et puis, c'est effectivement un jeu qui capte l'attention instantanément. Ce n'est pas une débauche esthétique, visuelle et technique. Mais c'est tellement frais, rigolo, l'univers, la musique, tout. On est bien, on se sent bien. C'est un jeu...
Le meilleur Mario de ces dernières années, donc...
Ah bah, de très
pour
très
faire court, parce qu'on en avait quand même déjà beaucoup parlé, donc le meilleur Mario.
Mais il
de
le mérite.
Années.
Il le mérite. Ah bah, de très
et
loin.
Le jeu à posséder donc absolument sur Wii.
Ah, je l'ai pas acheté, Julo. Tu vois, clairement. Je fais mon rebelle.
Et ben voilà. Et ben à Noël, tu sais ce que tu dois te faire
j'ai
offrir.
J'ai déjà trop de jeux à finir.
Alors un jeu par contre sur Wii qui était très très attendu par énormément de fans, mais que par contre là vous sentez pas fondamentalement obligé de débourser les 60€ réglementaires, c'est Resident Evil Umbrella Chronicles. Très simplement, c'est un jeu de tir à la première personne, mais vraiment shoot, entre guillemets, un peu arcade. Sur des rails, voilà. Ça permet de revivre le scénario de Resident Evil 0, de Resident Evil 1. Ils ont complètement omis Resident Evil 2, juste le Resident Evil qui a le mieux marché, on ne comprend pas très bien pourquoi, qui avait une super ambiance et qui s'y prêtait parfaitement parce qu'il y a toujours un binôme parce qu'on peut jouer à deux. On passe directement à Resident Evil 3, mais avec les graphismes de Resident Evil Outbreak en version absolument horrible. Techniquement, c'est une catastrophe. Effectivement, pour les, vraiment
moi,
les fanatiques
la
de la saga, vous allez apprendre quelques petites brides supplémentaires sur la chute de Umbrella, justement, qui est à la base de toute la saga, avec des scénarios alternatifs qu'il faut débloquer une fois que tout est fini.
Le fameux Wesker.
Exactement, Wesker qui est disponible à certains moments, clé du jeu. Mais alors, sorti de là, c'est du très classique, surtout assez mou, on n'a pas de plaisir instantané, on ne retrouve pas un plaisir justement très arcade comme dans House of the Dead où tout de suite on doit tirer, on chope les points vitaux des personnages, même si la localisation est très bonne, il n'y a pas vraiment de tension, la mise en scène, il y a des efforts de mise en scène qui parfois payent et d'autres fois qui sont juste lourdingues parce que ça ralentit le rythme du jeu. Enfin, c'est un jeu qui est très contrasté, vous allez découvrir le test très très bientôt sur gameblog.fr, comme ça vous pourrez voir en profondeur ce qu'on en a pensé, mais enfin les fans absolus en retireront un petit peu quelque chose. Les autres, franchement, seront déçus. Ça reste néanmoins le meilleur Resident Evil shoot sur rail. On connaissait la série des Dead Aim, qui n'est pas fondamentalement incroyable. C'est probablement le meilleur. Enfin, le
mais
meilleur,
par défaut, quoi.
Le meilleur des pires. Ça reste pas un grand jeu. Donc, c'est pas un obligatoire. On est assez déçus. On va pas vous le cacher. Voilà. On a fait le tour de tous les jeux sur console next-gen et PC.
Juste
un dernier.
Zack & Wiki sur Wii. Donc, qui a pas très bien marché au Japon. Mais qui est... Donc, c'est un jeu de Capcom. Une nouvelle licence. Donc ça explique peut-être qu'il n'ait pas trop marché, mais en tout cas c'est un super jeu avec
Côté Pokémon, c'était une nouvelle licence quand ça a commencé.
Certes. Et donc avec tout un tas de possibilités pour utiliser la Wii, donc la Wiimote pardon, donc pour scier, pour retourner, etc. Enfin, c'est un petit jeu où tu dois chasser des trésors et c'est pareil, c'est frais, c'est mignon, c'est très agréable et voilà quoi,
c'est un jeu qu'on vous conseille en
c'est
cas.
Un jeu qu'on conseille sur Wii également,
un petit jeu très très sympathique.
Super Paper Mario, il est très bien aussi.
Ça fait un peu vieux d'en reparler maintenant, mais effectivement ça
si vous
ne
l'avez pas encore,
voilà, parce que le tour un peu des jeux Wii qu'il faut
à mettre sur votre
Paper Mario aussi,
incontournable, très clairement. On continue cette fois-ci option portable, on va commencer par la PSP avec nous deux jeux vraiment qu'on vous recommande. On va commencer par Wipeout Pulse, très 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 bon, très bonne version hein, de ce jeu de course
Situé. Qui est en fait celle qui a introduit, si je dis pas d'idiot aussi, un système de progression dans le mode campagne où on peut sélectionner un petit peu ses épreuves et où on doit passer un petit peu par toutes les épreuves, soit un time trial, soit une course normale, soit un mode élimination. Il est magnifique pour de la PSP, il est vraiment super beau, super fluide, faitement développé et c'est un Wipeout. Pour tous les fans de Wipeout, il est vraiment incontournable. Quoi.
Donc vraiment un très très bon titre. Ça n'a juste rien à voir, mais c'est excellentissime aussi, c'est Final Fantasy Tactics. Alors là, c'est du jeu de rôle tactique, comme son nom l'indique, mais c'est cultissime.
c'est le meilleur jeu de rôle japonais tactique qui ait jamais été créé.
Voilà, qui était... voilà. Voilà tout simplement.
Au tour par tour.
On peut pas faire plus simple.
Qui avait été créé initialement sur PlayStation, voilà, première du nom, ouais, qui n'était jamais sorti en Europe et qui donc sort aujourd'hui, voilà, malheureusement
qu'en
anglais.
Qui était traduit en américain à l'époque. Qui... Et donc ils ont refait toute la traduction. Donc par contre, là on est obligé de le dire quand même, c'est que si vous êtes mauvais en anglais, ouais, ou même pas assez bon, c'est pas la peine parce que c'est du vieil anglais, c'est super chiadé et l'intrigue est super compliqué, le scénario est super compliqué.
C'est un bordel.
Donc il y a des tonnes de factions dans tous les sens, il se passe plein de trucs.
C'est politique, par contre, religieux, c'est assez sombre, voilà, c'est très
si vous avez le courage de, super triste de en ça fait, hein. Et si vous n'êtes pas mauvais en anglais, c'est vraiment un incontournable de toute l'histoire du jeu vidéo.
Maintenant que je l'ai terminé, je peux le dire, c'est triste.
Ouais.
Moi, mais par contre, quel trip, mon Dieu, quel trip. Ça fait marcher les neurones et en même temps, les cutscenes donc, ont été refaites sur la PSP en mode dessin animé, etc. Mmh.
Elles sont jolies. Hein.
C'est à tomber par terre. Et encore celle de la fin, mais c'est poétique, c'est beau. Les textes sont bien dits.
Et les musiques.
Les musiques, bon, ouais.
Somptueuses.
Somptueuses. Comment dire, c'est à tomber par terre.
Il n'y a rien à acheter. Non, le système est magnifique.
Si, moi, j'ai un reproche à faire. Ouais. Et franchement, c'est super chiant parce que c'est vraiment au cœur du gameplay. Et ça m'a saoulé. La gestion des caméras en fait, et pour pouvoir bouger en fait, savoir, c'est quand même un jeu de tour par tour, on va se déplacer sur une espèce de grille invisible,
de grand damier,
et le système de caméra est super mal foutu. Il y a des fois c'est très très dur de pouvoir visualiser la carte. Il manque un truc que tu vas avoir sur un Advance Wars ou même que tu avais, je ne me rappelle plus s'il était sur
Vandal Arts,
mais il était t'as pas de visualisation, enfin,
tu
de
peux
carte,
incliner si le plan pour y voir un petit peu plus clair, ouais, mais pas assez. T'as pas de vision globale, fois, hein. Comme il y a beaucoup de cartes qui jouent énormément avec la hauteur et où il y a des colonnes ou des bâtiments, des fois tu vois pas bien si t'es sur la bonne case, ouais, ou pas. Et c'est
vraiment le seul
dommage.
Défaut, mais alors bon, comme le jeu est très compliqué, qu'on fait, il y a les bastons sont très longues, etc., on s'y fait, au bout d'un moment on connaît ses personnages, etc., mais bon, c'est un truc qu'il faut le savoir, de temps en temps c'est un petit peu frustrant. M'arriver de faire une bataille un peu vite et de me déplacer et de m'apercevoir que j'étais sur la case à côté du mec que je voulais shooter et il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc c'est juste super pénible.
Ouais, c'est un jeu assez rare dans la merde. Il est super, y a beaucoup hardcore. De gens qui le trouvent très très difficile.
Il est difficile.
Il est très difficile.
Et il est super hardcore quand même.
Non, mais il est très difficile. Moi j'ai fini à l'hosto et.
ça n'a aucun rapport, hein, néanmoins. C'est pas le même.
Il faut vraiment avoir que ça à faire.
C'est vraiment une expérience de jeu en tout cas.
En termes de concentration, c'est top. Mais en tout cas,
on peut que vous recommander.
J'ai vu des gens partir avec à la Fnac l'autre jour, ça m'a fait plaisir.
Oui, puis si, c'est un jeu là pour le coup auquel on peut jouer parce que toi tu l'as terminé rapidement, t'as trousé dans la campagne solo à fond. Ouais. Mais il y a plein de petits easter eggs à découvrir, on peut y récupérer des vieux persos d'autres Final Fantasy, il y a plein de choses à cacher.
Si vous êtes fan de Final Fantasy 7 par exemple, il serait possible qu'il y ait certains personnages.
Il y a aussi un petit peu de mode en ligne, on peut jouer à deux avec le Wi-Fi. Donc c'est quand même une très très bonne version.
Donc un excellentissime jeu sur PSP. On finit avec la Nintendo DS et le jeu incontournable absolument, c'est Zelda Phantom Hourglass. Exceptionnel une fois de plus, même s'il est un peu court, même s'il est un peu facile,
il est
super intelligent.
Il est effectivement un peu plus court que d'habitude, peut-être un peu plus facile, mais en tout cas, il est bourré d'idées. Voilà.
D'utilisation intelligente du stylet, des écrans tactiles.
Il a été vraiment développé pour la console à donf pour utiliser tout ce qu'il était possible d'utiliser. Et voilà, c'est plein une fois de plus avec un peu comme avec Mario Galaxy, etc. C'est plein d'inventivité. T'es tout le temps surpris et tu prends un plaisir monstre à jouer et à progresser. Les donjons sont assez courts, assez faciles, mais finalement le donjon central, parce qu'il y a un donjon central dans le jeu dans lequel tu reviens toujours,
et sur lequel
dans lequel tu peux aller de plus en plus profond, etc. Devient de plus en plus difficile et toujours vraiment sympa à jouer et tout.
On rappelle que c'est le style graphique de Wind Waker.
Ouais, c'est la suite en fait.
Et moi personnellement, j'ai été beaucoup plus pris par ce Phantom Hourglass que Wind Waker à l'époque, qui pour moi était excellentissime jusqu'à son premier tiers, jusqu'au moment où on descendait sous Hyrule, et qui après n'était plus que de la course un peu sans fin sur la mer à aller chercher des fragments.
Ouais, à la fin de Wind Waker,
là,
tout
ça
monde
ne s'arrête jamais, on rentre dans l'aventure très vite, et à partir du moment où on est dedans,
on va de suite découverte dedans, en découverte. T'as jamais envie de t'arrêter, quoi.
C'est excellent Zelda sur DS, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Angel aurait un propos pour clôturer le tout.
Exact. Alors, je tiens à informer tous nos amis auditeurs
que je tiens entre les mains. Un exemplaire de Closer, donc. L'exemplaire de cette semaine, hein, du 26 novembre 2 décembre 2007.
C'était donc 2007, la fin de numéro 128.
Et que en page 89, oh, donc, il y a l'interview d'un certain Julien Chiez. Julien C. Donc, qui voilà, dit bon, que des choses télé. Super intéressantes.
Ah oui, hautement intellectuel.
Donc, pour dire clairement, alors donc, si vous avez une sœur, enfin, ou la mère, ou quelqu'un avec un QI très très bas, vous pouvez probablement lui piquer son closer et lire l'interview de quelqu'un qui n'a pas grand chose à dire.
C'est en tout cas, ça fait plaisir, j'en ai plus généralement sur gameblog.fr. C'était à peu près tout, hein. Je ne sais pas si on était obligé de parler de ça enfin. En tout cas, c'était nos.
C'était notre ton joyeux Noël spécial.
Ouais, pas forcément.
Comme quoi, t'as des bons amis. Hein, tu vois.
Ah, c'est ça, ça fait plaisir.
Avoir un ami.
Voilà. C'était en tout cas notre sélection des jeux incontournables vraiment de cette fin d'année pour nourrir vos consoles. Avec ça, franchement, bah, vous ne pouvez pas vous planter. En tout cas, il n'y a que du bon dans ce qu'on vous a dit. Et puis, lorsque ce n'était pas le cas, on vous a prévenu. Donc, nous, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est à la semaine prochaine, parce que ce n'est pas encore Noël, donc on ne va pas vous souhaiter de bonnes fêtes, hein, vous inquiétez pas, on s'occupe de vous pour les semaines prochaines. À la semaine prochaine, mercredi prochain, nouveau podcast, toujours plus passionnant, toujours plus passionné. À la semaine prochaine, en décembre, on sera encore plus près de Noël, ça fait plaisir.
Ça va cailler, super.
Ciao, ciao,
salut à tous.